C'est bien après, d'ailleurs, que nous nous sommes aperçus que nos parents se sont privés beaucoup, hein, sans le montrer, sans le dire. Ma mère, un jour, est revenue de chez le coiffeur avec un gigot. Et ça a été un événement dont on a parlé beaucoup, d'abord parce qu'on en a profité pendant quelques jours. Ce qui me vient aussi en mémoire, c'est quand mon père, qui était allé voir une usine, je pense, et qui se trouvait assez loin de Lyon, et il est revenu avec un énorme cabas de rutabaga. Et curieusement, rutabaga topinambour, on dit, ah, c'était les légumes de l'époque, c'était infect, c'était pas du tout. On en a été extrêmement heureux, on a commencé à en manger frais, que ma mère faisait cuire, des légumes qu'on ne connaissait pas avant la guerre. Et puis, avec ce qui restait, ma mère avait fait ce qu'on appelait la choucroute de rutabaga, c'est-à-dire elle avait trouvé le moyen de conserver cela comme on conserve le chou pour faire de la choucroute. Et ça nous a duré longtemps, et c'était un peu exceptionnel d'avoir tout à coup une part de choucroute au déjeuner. Quand j'avais 10-12 ans, quand j'allais chercher le lait, et nous avions des cartes d'alimentation très rapidement, et la laitière, gentiment, rajoutait toujours, nous avions une carte J, c'était quoi? C'était J2, J3, suivant les âges. Et elle rajoutait un petit peu de lait, de ce que nous avions droit, parce que tout le monde ne prenait pas son lait. Et puis chez les commerçants, alors là, il y avait toujours un grand panneau, une ardoise, chez l'épicier, par exemple, et on savait que de tel numéro à tel numéro de la carte d'alimentation, eh bien, on aurait droit à 1 kilo ou 1 livre de pommes de terre, à quelques légumes, éventuellement, quand il en restait, parce qu'il n'y avait pas toujours ce qui convenait avec les numéros, bien d'autres étaient passés avant avec d'autres, sûrement d'autres propositions alléchantes pour l'épicier. Et ben, on passait, même quand c'était son tour, son numéro, on n'avait pas forcément ce qui convenait. Et puis, il y avait la même chose chez le boucher. Alors là, c'était extrêmement rare d'avoir un tour chez le boucher où on avait droit à un petit peu de viande ou un petit peu. Mais c'était rare et on voyait défiler, on surveillait avec beaucoup d'intérêt le moment où approchait le numéro qui correspondait aux cartes. C'était, et je vois ma mère encore découper ses petits tickets d'alimentation pour être sûre de ne pas avoir à le faire chez l'épicier, à en perdre, etc. Elle avait ça très soigneusement dans son porte-monnaie. C'était la même chose pour le pain qui est très très vite devenu infect. Un pain qui piquait la gorge, qui était un petit peu, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Un petit peu noir, des grains de je ne sais quoi. Mais on avait des tickets de pain, c'était la même chose. J'ai une amie qui racontait que son père, par exemple, distribuait au moment du repas, ben voilà, chacun aura telle part, voilà la part de chacun. Et quand elle m'a dit ça, j'ai à ce moment-là réalisé que chez nous, c'était pas ça. Il y avait du pain et il y en avait à côté de l'assiette, mais finalement, on ne s'est pas aperçu, nous en tant qu'enfants, que mes parents n'en mangeaient plus guère. Mon père, qui était grand et fort, qui pesait plus de 100 kilos au début de la guerre, en pesait à peine 60 à la fin de la guerre. Et c'est peut-être là qu'on a réalisé tout à fait, bien plus tard, que nos parents se privaient sans nous le montrer. Je me suis toujours demandé après comment ma mère faisait, alors que nous étions 5 à la maison, comment elle arrivait à faire une omelette pour 5 avec 3 œufs. Est-ce qu'elle ajoutait peut-être de la farine? Est-ce qu'elle battait tellement que ça faisait un peu souffler? Et puis que dans les assiettes, elle commençait par servir les enfants, sans aucun doute. Un magasin qu'on attendait avec impatience, c'était le Tripier, qui vendait effectivement des tripes régulièrement. Vous savez, ça n'existe plus qu'à maintenant, ce sont les charcutiers. Mais on avait son tour de tripes, qui était un petit peu, on pourrait dire pour certains, un peu les déchets, vous savez, un petit peu de l'estomac du bœuf ou du veau. Je trouve ça toujours très bon. C'est peut-être un avantage de la guerre, ça. C'est de tout aimer. On attendait son tour chez le tripier. Et là, je me souviens, mais vraiment, c'était pour nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas quand même les tripes, donc on en avait une part importante hein, quand on allait chez le tripier. Et ma mère savait très bien préparer ça, c'était très bon. Et vraiment, je me souviens de très bons repas. Ils invitaient même des amis ce jour-là. J'allais dire, on en plaisantait comme j'en ris presque aujourd'hui en disant l'histoire des tripes, ça m'est resté comme quelque chose de convivial, qu'on partageait avec les amis. J'avais beaucoup de mal étant enfant à manger la viande, ça passait mal, mais ça fait rien, je restais dans mon morceau de viande, c'était difficile, ça arrive chez tous les enfants. Mais quand la guerre est arrivée, c'est vrai que tout cela manquant, on a appris à manger de tout, y compris les rutabagas, les topinambours, quand on en avait aussi, ces deux fameux légumes, les pommes de terre qu'on avait. Mais si on en avait par hasard, là c'était vraiment la grande joie, qu'on cuisait avec le beurre, qui était souvent rance d'ailleurs, mais et qui était aussi tout à fait, quel était le mot, réglementé, enfin il y avait un poids qu'on avait avec ces fameuses cartes aussi, l'huile qui n'était jamais l'huile d'olive, hein, ça c'était une chose qui devenait extrêmement rare pendant la guerre à ce moment-là. Et vous voyez, petit à petit, les choses se sont faites peut-être progressivement, sûrement entre avant la guerre, le début de la guerre, puis vraiment la période des restrictions, où on disait toujours, ce sont les Allemands qui prennent tout. Et je me souviens, nous avions quand même, ma mère avait retrouvé dans sa tête, en disant, mais après tout, mais nous avons des cousins éloignés à la campagne. Et un jour, elle me dit, tu sais, on va prendre le car et on va aller, mon père n'avait pas de voiture à ce moment-là, et nous allons aller les trouver, et puis on rapportera de quoi manger. Et c'était pendant les vacances, bien sûr. Et nous sommes partis en car, toutes les deux. Et nous avons vu cette cousine, un peu surprise de nous voir. Et ma mère lui dit, écoute, voilà, tu sais qui je suis. On est à Lyon, je suis là avec les enfants. Si je pouvais rapporter quand même des choses que vous avez, vous, là, à la campagne, avec vos bêtes, avec vos champs, avec ce que vous cultivez encore. Oh, mais écoute, je suis désolée. Dit-elle, les Allemands sont passés avant toi, ils nous ont tout pris. Puis en fait, nous avons su plus tard après la guerre qu'ils vendaient. Alors là, c'était un petit peu ceux qui fournissaient au marché noir. Hein, et qu'elle n'avait plus rien, mais ne nous a même pas donné 3 œufs. Et nous sommes partis, mais vraiment sans rien. Ça n'était pas vrai. Je pense qu'elle a pensé. Je supposais qu'on avait peut-être bien finalement de quoi manger et que de toute façon, elle n'avait pas du tout l'intention de se priver de ce qu'elle vendait par ailleurs. Ça, sans aucun doute, et c'était la formule « les Allemands nous ont tout pris ». Et nous sommes revenus et tellement déconfits, je me souviens. Ah oui, c'était au printemps. Il y avait de l'eau pépine le long du chemin pour retrouver le car. Et avec ma mère, nous avons cueilli des brassées d'eau pépine en nous disant, au moins, on rapportera quelque chose. Et nous sommes revenus, les bras chargés. C'était superbe. Mes parents n'achetaient pas au marché noir, sinon ce fameux gigot. Un jour, ma mère a eu, je ne sais pas, par des amis, j'ai eu un pot de graisse d'oie. C'est extraordinaire. Et ma mère, je me souviens de ce monsieur qui a dit, je vous apporte ça, vous savez, c'est extraordinaire. J'ai eu quelques pots de graisse d'oie. Mais alors, malheureusement, et ma mère disait, mais avec ça, je vais pouvoir faire sauter mes rutabagas éventuellement, ou mes topinambours. Mais cette graisse était complètement rance. Ça, c'est un très mauvais souvenir, parce que vraiment, elle pensait là avoir quelque chose. Enfin, ça nous a réjouis quand elle l'a eu. Et puis, quand il a fallu l'utiliser, c'était la grande déception. C'était immangeable. Ça, c'était aussi de cet ordre-là. Ma mère devait faire avec ce qui était et donner l'apparence que c'était quand même quelque chose. Il devait avoir de la farine qui a dû lui rester quand même pendant quelque temps. Elle avait dû faire des provisions, un peu comme tout le monde, au début de la guerre. Et tout ça s'est peut-être épuisé aussi progressivement. Donc ça lui a sûrement permis de faire des repas qui avaient l'air assez importants. On avait quand même de la salade, si vous voulez, on en trouvait. Et étant à la Croix-Rousse, on allait facilement à Caluire, où il y avait quand même ces jardins, ces producteurs, qui avaient, je ne sais pas pourquoi, j'ai le souvenir de ces côtes de bête, parce que c'était ça une grande histoire, parce qu'on mangeait tout sur les côtes de bête, pas seulement les côtes, mais les feuilles. Et être allé avec ma mère ces jardins, pas très loin, et on allait un petit peu la chercher des légumes. Mais les légumes, ce n'étaient pas des pommes de terre, curieusement, mais les légumes faire beaucoup de salade. On mangeait de la salade à tous les repas. Ça, effectivement, je ne sais pas trop quelle huile elle mettait là-dedans, mais qui n'était pas d'huile d'olive. Mais on avait sûrement de la salade. Là, c'est une chose qu'on a mangée. Ce qui étonne et qui amuse beaucoup mes enfants, vous ne me verrez jamais jeter un morceau de pain.